Salut les rebelles intelligents! L'année dernière, j'ai lu 23 livres pratiques et 14 livres de fiction. Et sur les 23 livres pratiques que j'ai lus, il y en a 6 qui étaient des biographies. Parce que je trouve que les biographies, c'est juste un moyen absolument extraordinaire de vivre plusieurs vies. On découvre en fait bien la vie entière d'hommes qui ont accompli des choses absolument incroyables, parfois aussi dans le mauvais sens, hein, et on apprend en fait de leurs erreurs et de leurs succès. En quelques heures, c'est juste un investissement en temps et en énergie absolument extraordinaire. Ceci dit, je trouve que j'ai lu trop de biographies l'année dernière. C'est d'ailleurs une des motivations qui m'a poussé à me lancer dans ce défi de lire 24 livres cette année et d'en faire une chronique sur cette chaîne. Parce que, en fait, beaucoup de biographies se lisent comme des histoires. Et ça peut être un piège, en fait, dans lequel il est facile de tomber, que de lire des biographies pour se donner bonne conscience en disant « Ouais, je lis des livres pratiques », mais au final, on les consomme comme des histoires, comme des romans, et du coup, on n'en tire absolument rien. Donc, non seulement j'ai décidé de lire davantage de livres pratiques qui ne soient pas des biographies cette année,
alors sans pour autant arrêter complètement de lire des biographies, on est d'accord.
Mais en plus, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une entrée dans mon journal où j'allais tout simplement noter tout ce dont je me rappelais par rapport à ces biographies, qu'est-ce que j'avais appris concrètement avec elle pour voir si ça avait eu un impact concret dans ma vie. Alors sur ces 6 biographies, j'en ai déjà parlé de 2 sur ma chaîne. D'abord, il y a La Voix du Pirate de Xavier Niel, donc pareil, et aussi la biographie d'Einstein de Walter Isaacson, pareil. Mais ça fait quand même 4 biographies dont je n'ai pas du tout parlé. D'ailleurs, je vous demanderai à la fin de cette vidéo eh bien, s'il y a une ou des biographies dont vous aimeriez que je parle davantage. Alors, je fais ça dans l'ordre chronologique de lecture. Donc, tout d'abord, il y a eu Xavier Niels, La Voix du Hacker. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement, c'est rare d'avoir des biographies sur des entrepreneurs français. Et déjà, la première chose que j'ai appris dans ce livre, c'est que les journalistes français, puisque ça a été écrit par 2 journalistes, malheureusement, ils sont complètement ennuyeux et absolument pas inspirants comparés à leurs équivalents américains quand ils écrivent des livres sur des milliardaires. Souvent, en fait, les auteurs américains, ils essaient de faire en sorte que ça apporte quelque chose à leur audience, que leur audience puisse tirer des conseils concrets à appliquer dans leur vie pour avoir une meilleure vie. Tandis que là, on était vraiment dans une démarche journalistique, un petit peu de presque de commérage. Bon, j'exagère un peu quand je dis ça, mais ça manquait en fait de vision, ça manquait d'ambition. Ceci étant dit, j'ai quand même appris des choses intéressantes dans ce livre. Et tout d'abord, ma croyance dans l'efficacité du système Lean Startup. Donc le Lean Startup, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette idée que plutôt que de faire pré-viser-feu, c'est pré-feu-viser. On tire d'abord et après on ajuste le tir. Donc on se met le plus vite possible en contact avec la réalité, notamment en sortant ce qu'on appelle le produit minimum viable. Donc en évitant de passer des mois, des années à créer un produit dont finalement, souvent, on se rend compte que tout le monde se fout complètement. Il faut se connecter à la réalité du terrain le plus vite possible, vendre un produit imparfait pour voir concrètement ce que les prospects et les clients attendent du produit. Donc ça a renforcé ma croyance dans ce modèle-là parce que Xavier Niel, c'est exactement comme ça qu'il a fait à peu près tous ses business. Et aussi dans le growth hacking, donc le fait de tout simplement hacker la croissance avec des petits outils. Parce qu'il faut savoir quand même que la première Freebox, elle a été conçue, si je me rappelle bien, par, je crois, 3 ou 4 ingénieurs, alors qu'ils se battaient contre une équipe de plusieurs dizaines d'ingénieurs chez France Télécom qui étaient en train de développer leur boîtier ADSL et la Freebox était largement supérieure. J'ai aussi appris qu'on peut démarrer dans le porno, dans le Minitel Rose, et qu'on peut aussi investir dans des entreprises qui ne sont pas forcément ultra élégantes comme des peep shows, et puis quand même devenir quelqu'un d'extrêmement respecté. Parce que ce qui compte au final, ce n'est pas tant comment vous avez démarré que votre vision et ce que vous voulez accomplir à terme. Parce que voilà, Xavier Niel a démarré avec des services de chat de Minitel Rose. Et après, il investit dans des tas de magasins sur Paris, de vente d'accessoires érotiques, etc. Et au final, il s'est servi de cet argent pour ensuite financer sa vision. Sa vision, c'était de créer une société qui permettait à la France d'avoir une connexion Internet à un coût complètement raisonnable. Et grâce à lui, on a un des coûts les plus bas d'Europe, les plus bas du monde par rapport à la qualité. Je veux dire, il suffit de voir les prix que payent les Américains et les Canadiens, c'est absolument démentiel. Ensuite, on a donc la biographie d'Einstein par Walter Isaacson. Donc Walter Isaacson, c'est notamment l'auteur de la fameuse biographie de Steve Jobs. Et comme toutes les biographies de cet auteur, celle-ci est extrêmement bien écrite, extrêmement inspirante. Donc tout d'abord, une des choses que… Alors j'ai appris plein de choses, hein. Encore une fois, si vous voulez voir la totalité de ma chronique, vous pouvez cliquer là sur la fiche pour aller voir la vidéo. Alors, la première chose que j'ai appris, c'est que les méthodes d'apprentissage alternatif à l'école ça peut vraiment aider les gens à être plus créatifs et à penser en dehors de la boîte.
Il faut savoir que Einstein a suivi un cursus comme ça dans une école qui était alternative à son époque et qui notamment mettait beaucoup l'accent sur la visualisation, la créativité, le fait de résoudre des problèmes de manière créative par soi-même. Et ça a eu un énorme impact sur Einstein et son génie créatif.
Ensuite, j'ai appris que être indépendant et puis aimer la liberté, ça vous aide vraiment, vraiment à penser de manière indépendante et puis à résister finalement à la sagesse commune qui parfois justement peut ne pas être basée sur des vrais principes. Il faut savoir que Einstein s'est posé en rebelle et que c'est cette volonté de casser les codes et puis l'establishment qui l'a poussé à trouver la théorie de la relativité. Il faut savoir qu'il y avait un grand savant français à l'époque qui s'appelait Poincaré qui était arrivé à ça de trouver la théorie de la relativité, mais comme ça mettait complètement en l'air toutes les théories scientifiques de l'époque sur ce sujet, eh bien, il n'a pas osé aller plus loin. Il s'est dit non, c'est pas possible. Si ça remet en cause tout le système, c'est que c'est faux. C'est qu'il y a un problème dans la théorie.
Alors que bien sûr, il n'y avait pas un problème dans sa théorie, il y avait des problèmes avec les théories précédentes.
Donc, avoir cette attitude de rebelle, être dans une démarche de briser le statu quo, de briser les coutumes du passé, ça aide vraiment à innover de manière intéressante. Après, bien sûr, il y a aussi un prix à ça. Au niveau personnel, Einstein n'était pas décrit comme quelqu'un de très empathique, c'était quelqu'un de plutôt solitaire, même s'il avait quand même des amis et qu'une fois qu'on perçait la carapace, il pouvait être un ami pour la vie. Mais voilà, ce n'était pas quelqu'un de facile à aborder. D'ailleurs, je dois vous avouer que quand j'ai lu cette description, moi je me suis connecté à ça parce que je suis un petit peu comme ça. On ne peut pas être indépendant intellectuellement sans cultiver une certaine forme de solitude, une certaine forme de méfiance par rapport aux gens. Parce qu'il y a cette idée qu'à un moment, il vaut mieux réfléchir par soi-même plutôt que d'accepter des vérités toutes faites que la plupart des gens pensent. Ensuite, j'ai appris que jouer de la musique, c'est sans doute un des hobbies les plus sains et qui booste le plus la créativité du monde. Einstein, c'était un passionné de violon et dès qu'il avait besoin de réfléchir, en tout cas de manière différente, dès qu'il avait besoin de s'échapper un petit peu de ses mathématiques et puis de booster sa créativité, il jouait pendant des heures parfois du violon. Et c'est clairement une habitude qu'on retrouve chez pas mal de très grands créatifs. Donc voilà, si vous ne jouez pas d'instrument de musique, c'est sans doute quelque chose à cultiver. Ensuite, j'ai appris que la visualisation, ça peut vraiment être un outil extrêmement puissant. En fait, Einstein, il n'était pas un expérimentateur, c'était un théoricien, mais c'était un théoricien qui avait une grande imagination visuelle. La plupart de ses théories, finalement, il les a alimentées et parfois il a démarré avec juste des visualisations dans sa tête. C'est-à-dire qu'il essayait de se mettre à la place d'un photon, il essayait de se mettre à la place des différents éléments qu'il essayait de décrire et de voir comment la réalité pouvait s'agencer autour de ça de manière visuelle. Ensuite, et c'est aussi le corollaire de ce désir d'indépendance et de liberté, Einstein, c'était avant tout un citoyen du monde. Il ne se sentait pas comme quelqu'un qui appartenait à une nation, qui appartenait à un gouvernement. Il faut savoir qu'il a eu trois nationalités différentes dans sa vie. Bon, il est né en Allemagne, donc il avait la nationalité allemande, mais il a renoncé à cette nationalité quand il vivait en Suisse parce qu'il ne voulait pas faire le service militaire. Parce que c'est pareil, il estimait que le service militaire, ce n'était pas fait pour quelqu'un comme lui, d'indépendant intellectuellement, qui surtout ne voulait pas se laisser influencer par la foule. Et donc, pendant plusieurs années, il s'est retrouvé sans absolument aucune nationalité. Alors, je ne sais pas si c'est possible de faire ça, mais il vivait ensuite sans avoir de nationalité. Et finalement, quand le nombre d'années qu'il a passé en Suisse lui a permis, il a acquis la citoyenneté suisse. Ensuite, quand il est devenu célèbre, l'Allemagne lui a réoffert sa nationalité allemande. Puis, quand les nazis sont arrivés au pouvoir, vu qu'il était d'origine juive, il a renoncé à sa nationalité allemande, il est devenu américain à la fin de sa vie sans jamais renoncer à sa nationalité suisse. Et ça aussi, je trouve ça intéressant. Moi-même, je me sens davantage citoyen du monde. J'estime comme Einstein qu'on n'appartient pas à un gouvernement. Et c'est d'ailleurs un de mes objectifs aujourd'hui d'acquérir un deuxième et peut-être davantage de passeports parce que je ne peux pas accepter d'être dépendant d'un pays pour pouvoir vivre et me déplacer partout dans le monde. Et enfin, il y a quelque chose d'absolument touchant avec Einstein, c'est la mission qui le portait, qui était de davantage comprendre l'univers et de faire du monde une meilleure place pour tous les êtres humains, justement en essayant de faire avancer de manière énorme la compréhension de l'univers, mais aussi en se battant pour les droits civiques. Et quand vous êtes, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé dans la vie d'Einstein, quand vous êtes vraiment porté par une mission comme ça, qui vous inspire, qui vous motive, qui vous dépasse, ça vous
permet de vivre une vie qui est extrêmement cohérente, qui est tournée autour de toutes ces valeurs, au point même où vous allez pouvoir vivre, bien sûr, si vous avez de la chance, si vous n'aurez pas d'accident ou autre, eh bien, tout simplement de pouvoir jusque la fin, parce que Einstein, il a été comme ça jusque la fin, pouvoir avoir une des plus belles morts possibles, qui est en gros d'utiliser vos dernières énergies pour essayer toujours d'apporter de la valeur au monde. Einstein est mort en écrivant des équations. Là, le dernier jour, les dernières heures, il était encore en train d'écrire des équations pour essayer d'unifier les forces fondamentales, pour essayer de faire avancer l'humanité. Ensuite, j'ai lu une biographie très très intéressante et originale, c'est Genghis Khan et la création du monde moderne. Alors, Genghis Khan, oui, le grand conquérant mongol, celui-là même. Je peux vous dire que j'ai appris un nombre incalculable de choses. Franchement, ça m'a complètement ouvert les yeux sur l'histoire des Mongols, sur l'histoire de la Chine, sur l'histoire de la Corée, mais aussi sur l'histoire de l'Europe et du Japon, parce que, en fait, la création de cet empire mongol a eu une influence énorme sur l'histoire. D'ailleurs, il faut savoir que le petit-fils de Genghis Khan, à un moment, se posait la question, est-ce que je vais aller envahir la Chine ou est-ce que je vais aller envahir l'Europe? Il a décidé d'aller envahir la Chine et il a réussi à la conquérir. Donc, clairement, on peut se dire que s'il avait choisi de conquérir l'Europe, il aurait réussi et la face du monde en aurait été complètement changée. Une des choses que j'ai compris en lisant cette biographie, c'est que vraiment, il y a des mythes à propos de civilisation, de population et aussi de gens qui peuvent se répandre et rester pendant des siècles. J'avais vraiment une vision de Genghis Khan qui était extrêmement caricaturale et complètement non informée en fait. Et j'ai appris voilà beaucoup beaucoup de choses. Moi je pensais aussi que c'était vraiment une sorte de horde barbare, alors que quand même ils ont, alors ils étaient comme tout le monde à l'époque, pas très très amis avec les principes de l'ONU et des droits de l'homme, hein, ça c'est clair, c'était des mecs assez violents, mais ils ont aussi quand même pas mal contribué à la civilisation, c'était pas juste des barbares incultes comme on voudrait nous faire croire. Et c'est aussi une des leçons de ce livre, c'est qu'il peut y avoir des révolutions mondiales, en tout cas des révolutions qui ont un impact énorme sur une grosse partie de la planète, qui peuvent être nées dans les coins les plus obscurs de la planète. C'est pas parce que quelqu'un naît dans un coin complètement oublié du monde et qui est illettré et inéduqué qu'il ne peut pas créer un mouvement qui lui va avoir un impact énorme. Et sans aller jusque-là, je trouve que c'est aussi un exemple inspirant parce que quelle que soit en fait votre situation actuelle, vous êtes sans doute dans une bien meilleure situation que Genghis Khan l'était à l'époque. Et si vous êtes porté par une véritable mission et un désir d'apporter de la valeur, en tout cas de changer le monde, bah, rien ne vous empêche de le faire, en tout cas à votre échelle. Et c'est d'ailleurs une grande force de Genghis Khan, parce qu'encore une fois, il était illettré, il avait beaucoup d'imperfections, comme tous les êtres humains. Il avait par contre un talent extraordinaire, c'était de trouver les talents ailleurs et de fédérer les gens autour de lui, de les motiver. Et ça aussi, voilà, quelles que soient vos faiblesses aujourd'hui, vous pouvez toujours trouver des gens, des partenaires, des employés, des prestataires et autres, qui, s'ils accrochent à votre mission, si ça leur parle, si vous pouvez les toucher émotionnellement avec ça, seront prêts à vous aider. Alors, bien sûr, parfois pour un prix, hein, mais en tout cas, qui seront prêts là à compenser vos faiblesses, à vous apporter des forces que vous n'avez pas. Et puis, on a encore l'exemple avec Genghis Khan de quelqu'un qui, en fait, ne suivait pas les règles, qui brisait les règles et puis qui recréait celles qu'il voulait. Il ne se laissait pas impressionner parce qu'il y avait des coutumes qui existaient depuis des centaines ou des milliers d'années. Justement, une des choses qu'il a faites, c'était de réformer le système social et économique des Mongols parce qu'il trouvait qu'il y avait des aberrations en fait, qui ne fonctionnaient pas. Ensuite, et ça va plaire aux plus compétitifs d'entre vous, Genghis Khan n'était pas là pour rigoler. Il ne jouait pas pour le plaisir de jouer, il jouait à chaque fois pour gagner. Et il mettait tout, absolument tous les éléments qu'il pouvait, sur lesquels il avait un contrôle, de son côté pour assurer la victoire, en tout cas garantir un maximum le succès. Ensuite, Genghis Khan, c'était un maître des rituels et des cérémonies, et ça, clairement, ça a un impact important. Vous aussi, mettez en place dans votre business, dans votre vie, dans vos relations avec votre audience, des rituels, des cérémonies. C'est quelque chose qui, naturellement, plaît à l'être humain, qui est important. Et ben, c'est aussi un maître de la communication et de la propagande, Genghis Khan, bien avant l'heure. Et bien sûr, c'est toujours le cas aujourd'hui, ça fonctionne bien. Et aussi, il y a quelque chose d'intéressant. Bon, clairement, dès qu'on s'intéresse un peu à l'histoire, on se rend compte que la nature humaine est la même partout dans le monde, quelle que soit l'époque. Nos gènes n'ont pas suffisamment changé en quelques milliers d'années pour qu'on ait une grosse différence. Là, ça a renforcé cette vision que j'ai. Et il y a notamment un passage qui m'a interpellé et que je vous donne ici. Alors, je vais traduire en live de l'anglais. Donc, c'est Genghis Khan qui s'adresse en fait à ces grands généraux. Hein. Il dit, sans la vision de votre objectif, un homme ne peut pas gérer sa vie, encore moins la vie des autres. C'est tellement facile d'oublier votre vision et ce pourquoi vous vous battez une fois que vous avez des beaux vêtements, des chevaux rapides
et des belles femmes. Dans ce cas, dit-il, vous ne serez pas mieux qu'un esclave et vous êtes sûr de perdre tout à terre.
Et clairement, ça peut s'appliquer encore à nous aujourd'hui, donc voici un conseil intemporel de Genghis Khan juste pour vous.
Enfin, ce que j'ai aussi appris avec les Mongols, c'est que c'était vraiment une civilisation qui était extrêmement ouverte et tolérante par religion, a priori, c'est même la toute première civilisation de la Terre qui n'ait pas de religion officielle et qui soit l'équivalente à nos états laïcs d'aujourd'hui. Donc il y avait des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des confucianistes, tout ce que vous voulez. C'était un joyeux mélange et Genghis Khan et puis ensuite ses fils, donc les empereurs de l'Empire mongol, étaient vraiment encouragés ces religions à se mixer entre elles. Et c'était aussi un véritable carrefour intellectuel à l'époque. Ils faisaient venir des artisans, des savants, les meilleurs esprits de l'époque pour les faire travailler à la cour et dans d'autres domaines. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les Mongols étaient extrêmement ouverts aux marchands. Le statut de marchand était un statut qui était valorisé dans leur civilisation, contrairement à beaucoup d'autres peuples à l'époque. Et clairement, ça a contribué énormément à leur richesse, qui leur a permis d'alimenter des armées et de tenir aussi longtemps. Donc clairement, c'est aussi ce qu'on voit finalement dans l'histoire de l'Europe, c'est que les civilisations qui valorisent les entrepreneurs, clairement, sont celles qui gagnent sur le long terme.
Parce que ce sont les entrepreneurs, ce sont les marchands qui créent énormément de richesses qui, ensuite, grâce à l'impôt, va être redistribuée et puis va permettre de financer les révolutions scientifiques, les expéditions, les découvertes, etc., etc.
Ensuite, un excellent livre qui est tout simplement Faraday, Maxwell et le champ électromagnétique. Comment deux hommes ont révolutionné la physique par Nancy Forbes. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Je ne connaissais pas du tout cette histoire de la découverte de l'électromagnétisme. Et on commence par... Et Faraday est sans doute la figure la plus inspirante parce qu'il n'avait pas d'éducation, en fait. Il est né pauvre dans un village d'Écosse, si je me rappelle bien. Et il a quand même eu un impact absolument énorme sur le monde puisqu'il a mis en place des expériences qui ont prouvé l'effet électromagnétique. Et ce qui lui a permis d'avoir un tel impact dans le monde, c'est d'abord qu'il avait une curiosité absolument énorme qui lui a servi de fuel, de feu sacré finalement tout au long de sa vie. Il avait l'envie d'apprendre par lui-même, mais aussi il avait cette vision de vouloir comprendre le monde et contribuer à l'humanité, et il était prêt à faire ce qu'il fallait pour apprendre par lui-même. Il ne s'est pas laissé démonter par le fait que sa famille n'avait pas les moyens de l'envoyer dans une bonne école, tout simplement. Et il a notamment appris à lire, il a commencé à emprunter des livres à la bibliothèque puis auprès de gens qu'il connaissait, et c'est comme ça qu'il a forgé sa culture scientifique. Il avait aussi une énorme vision et beaucoup de courage et l'habitude de challenger le statu quo et de penser en dehors de la boîte.
Challenger le statu quo et penser en dehors de la boîte. Si vous remarquez, les rebelles d'intelligence, c'est un point commun à toutes les personnes dont j'ai parlé depuis le début de cette vidéo, et vous verrez que c'est un thème récurrent.
Ensuite, ce que j'ai appris aussi, c'est que les livres de développement personnel sont importants. Ils peuvent vraiment avoir un impact sur la vie des gens.
Alors, quand je dis que j'ai découvert, bien sûr, je le savais déjà, mais c'est une critique qu'on voit parfois. Il y a des gens qui disent, ouais, d'accord, ok, les bouquins de développement personnel, cite-moi quelques grands noms des gens vraiment illustres qui ont vu leur vie changer grâce à un livre de développement personnel. Et c'est vrai que quand on ne s'est pas intéressé au sujet, ça peut être difficile de trouver des noms de gens. Mais il y en a plusieurs, et notamment Faraday, il a vu sa vie changer parce qu'il a lu un livre de développement personnel de l'époque qui s'appelle toujours d'ailleurs The Improvement of the Mind, c'est-à-dire l'amélioration de l'esprit, par Isaac Watts. Et ça a fait vraiment une énorme différence puisque, en fait, dans ce livre, l'auteur explique comment apprendre par soi-même, comment réussir dans la vie. Et c'est en appliquant les principes de ce livre, entre autres, que Faraday a pu avoir la vie qu'il a eue. Ensuite, ce que j'ai appris avec Faraday, c'est que quand vous avez une vision, des objectifs vraiment précis attachés à eux et que vous agissez vraiment pour les atteindre, vous allez, c'est quasiment obligatoire, trouver des ressources, trouver des mentors pour vous aider à aller beaucoup plus loin que ce que vous auriez fait tout seul dans votre coin. Ça touche vite fait à la loi de l'attraction, mais j'avais déjà fait une vidéo complète sur le sujet. C'est logique qu'à partir du moment où vous avez un objectif très précis et que du coup vous recherchez tout dans votre vie, toutes les opportunités qui peuvent vous faire avancer vers cet objectif, vous avez davantage de chances de rencontrer des gens, des ressources pour vous aider tout simplement. Ensuite, quelque chose d'intéressant aussi, c'est que Faraday, il faisait une diète médiatique avant l'heure. Et notamment, il ne s'intéressait absolument pas à la politique de l'époque et aux guerres de l'époque. Donc Faraday, en gros, il a vécu dans la première moitié du 19e siècle. Et il a fait un tour européen, c'était quelque chose, une sorte de rituel initiatique pour les étudiants à l'époque. Une fois que vous avez terminé vos études, vous alliez tout simplement faire un tour en Europe pour découvrir un petit peu la vie, différentes cultures, etc. Il a fait ça à la fin, dans les dernières années des guerres de Napoléon, et il pouvait, et voilà, il se foutait complètement
complètement.
Mais alors, complètement, alors que tout le monde quasiment ne parlait que de ça, lui, il n'écoutait pas les news par rapport à ça, il ne suivait pas ça du tout et il se focalisait tout simplement sur sa mission, sur le fait de devenir une meilleure personne, sur le fait d'apprendre davantage pour réaliser sa contribution à l'humanité.
Et on retrouve vraiment là-dedans cette philosophie de la diète médiatique qui est d'arrêter de se focaliser sur le bruit du monde pour se concentrer sur le silence de son âme.
Pour citer notre ami Jean-Claude Van Damme qui est très très loin de dire que des conneries.
Parce qu'au final, la philosophie des dettes médiatiques, c'est quoi? C'est d'arrêter de se concentrer sur des choses sur lesquelles on n'a absolument aucun pouvoir, sur lesquelles de toute façon, on ne pourra jamais influencer quoi que ce soit, pour plutôt se concentrer sur ce que nous, on peut faire, sur ce qu'on peut contribuer autour de nous pour faire de ce monde un monde meilleur. Et clairement, si on faisait tout ça, eh bien, je pense que le monde irait beaucoup, beaucoup mieux. Ensuite, j'ai appris que clairement, vos qualités, vos compétences en présentation, elles comptent. C'est complètement inconnu du grand public, mais Faraday, c'était un maître des conférences interactives, amusantes et inspirantes. Il était devenu extrêmement célèbre à Londres pour ça et les gens se battaient pour suivre ses présentations interactives. Et ça, ça a aidé énormément à communiquer ses idées et à faire de lui une sorte d'icône qui dont ensuite les idées étaient respectées.
Donc je vous renvoie à la vidéo que j'ai publiée hier justement sur l'erreur à ne pas faire quand on est présentateur et aussi sur le livre Présentation Zen qui vous permet justement d'améliorer énormément vos capacités de présentation.
Alors j'ai appris aussi que les gens qui sont intelligents et bien éduqués, en général, même eux, ils ont vraiment, vraiment du mal à comprendre les principes scientifiques les plus basiques et du coup ils tombent facilement en fait dans des croyances qui sont complètement ridicules parce qu'en fait ils ne prennent pas le temps de challenger en fait ces croyances en mettant en place des expériences.
Donc les rebelles intelligents, ne soyez pas comme eux, il faut que vous acquériez aussi une compréhension, une base scientifique minimale, peut-être d'ailleurs notamment en lisant des biographies comme celle d'Einstein ou de Faraday et de Maxwell, et essayez aussi d'être de bons sceptiques et de mettre en place des expériences dans votre vie. Ensuite, ça m'a conforté dans l'idée que les masterminds sont importants. Faraday, il est comme beaucoup finalement de gens créatifs et de scientifiques qui ont découvert des nouvelles choses, il était tout le temps en train d'échanger des idées, des théories avec les grands esprits scientifiques de son époque, que ce soit par lettre ou quand il est rencontré en vrai. Et clairement, ça a eu une importance, ça a été très important dans son succès. Aussi, c'était quelqu'un qui, comme Beethoven et comme d'autres créatifs, adorait marcher dans la nature, faire des promenades. Et c'est sans doute une des meilleures habitudes avec donc, la pratique d'un instrument de musique dont j'ai parlé tout à l'heure pour vraiment booster votre créativité et vous relaxer. Enfin, vous avez besoin que d'une seule personne pour qu'un livre vaille la peine d'être écrit. En fait, Faraday, il a passé sa vie à écrire son livre Experimental Researches in Electricity, c'est-à-dire recherche expérimentale dans l'électricité. Et voilà, c'était vraiment pas un page-turner, c'était pas un livre facile à lire. Et en fait, pendant des années, les gens n'ont pas vraiment compris l'intérêt de ce livre. En fait, dedans, Faraday racontait les résultats de ses expériences. Et ça a été un livre qui a été inutile pendant très longtemps. Mais il y a juste une personne qui a réussi à en tirer la substantifique moelle. Et cet homme, c'est Maxwell qui fait l'objet de la deuxième partie de ce livre. En fait, Maxwell a utilisé les données du livre de Faraday pour créer la théorie de l'électromagnétisme qui a complètement changé l'histoire de l'humanité. Parce que Faraday, c'est un excellent, contrairement à Einstein, un excellent expérimentateur, mais un mauvais théoricien. Et notamment, il n'avait pas du tout de connaissances mathématiques. Là, on voyait par contre le problème dans la faille finalement dans son éducation informelle qu'il avait fait lui-même. Et donc c'est Maxwell qui, à partir des données de Faraday, en a fait la théorie de l'électromagnétisme. Et c'est à partir de cette théorie de l'électromagnétisme que Einstein a développé la théorie de la relativité. Donc vous voyez, ça se connecte aussi à Einstein. Donc c'est la question que je vous pose, les rebelles intelligents. S'il devait y avoir une seule personne qui tire vraiment de la valeur de votre contenu, imaginez que vous ayez quelqu'un qui comprenne vraiment parfaitement ce que vous voulez dire et qui l'utilise pour faire quelque chose de beau, qu'est-ce que ça serait, quelle valeur il apporterait au monde et du coup, est-ce que ça vous motive à écrire un livre, en tout cas à diffuser votre contenu plus largement. Ensuite, j'ai lu Le Loup de Wall Street de Jordan Belfort. Donc, c'est un livre très intéressant. Il y a des tas de choses qui sont dans le bouquin et qui ne sont pas dans le film. Donc, même si vous avez vu le film, c'est clairement un livre intéressant à lire. Bon, clairement, la première chose que j'ai appris en lisant ce bouquin, c'est que les escroqueries, ça dure un certain temps, mais ça ne peut pas durer éternellement. Et si vous êtes dans l'escroquerie, vous allez peut-être pouvoir gagner de l'argent avec ça, mais pendant que vous serez en train de le faire, vous allez devoir vous reposer sur l'alcool, les drogues, les prostituées et d'autres substituts
pour pouvoir vous aider à gérer votre culpabilité.
Si vous avez une conscience, bien sûr.
Parce que pas de bol pour Jordan Belfort, il avait une conscience, il était quand même rongé par cette culpabilité. Ça, on ne le voit pas du tout dans le film. Et c'est notamment pour ça qu'il utilisait autant les drogues. Ensuite, clairement, une des leçons qu'apprend ce livre, c'est qu'une vision qui n'est pas ancrée dans une démarche éthique, et qu'est-ce que c'est que la démarche éthique? Finalement, c'est une vision qui veut simplement qu'il y ait une volonté de créer de la valeur pour l'humanité, de la valeur pour les êtres humains. Si vous n'avez pas une vision qui est ancrée dans ces valeurs-là, ça amène tout simplement à un gaspillage de talents et de compétences. Parce que franchement, Jordan Belfort, il a énormément de compétences. C'est quelqu'un de très charismatique, qui sait motiver les gens, qui sait les guider. C'est aussi un excellent vendeur, bien sûr. Et s'il avait utilisé toutes ses compétences pour créer un véritable business et apporter de la valeur à l'humanité, waouh, il aurait sans doute apporté énormément. À un moment, Jordan Belfort, il explique aussi comment il faisait du lavage de cerveau sur ses employés hein, pour qu'ils aient l'impression qu'en fait ils travaillent dans un truc absolument extraordinaire, qu'eux-mêmes ne soient pas rongés par la culpabilité, etc., etc. Et il dit en fait le lavage de cerveau, c'est tout simplement de dire la même chose encore et encore à une audience captive et de faire en sorte que vous êtes le seul à dire quoi que ce soit, qu'il ne peut pas y avoir deux points de vue en compétition. Et quand vous dites ça, ben, les gens, en fait, c'est ce qu'il explique dans son livre, naturellement, ils se mettent à croire à ça parce que c'est le seul son de cloche qu'ils entendent. Et ça, c'est intéressant, les rebelles intelligents, parce qu'on voit aussi ces phénomènes de chambre d'écho, comme on dit, c'est-à-dire que ben, les gens qui restent uniquement dans un seul milieu, qui parlent toujours aux mêmes personnes, qui pensent exactement comme eux, et au final, ils se créent une sorte d'hallucination collective parce que comme ils sont toujours en train de parler, ils sont tous du même avis, eh bien, ils ont l'impression que c'est parce que tout le monde est du même avis, c'est la vérité. C'est important de confronter ces idées et d'aller sortir de notre milieu social, de rencontrer des gens différents et de s'ouvrir l'esprit tout simplement, de voyager aussi pour sortir de notre culture, pour pouvoir apercevoir d'autres vérités ou d'autres manières de voir la réalité. Enfin, ce que j'ai aussi appris en lisant ce livre, c'est que vous pouvez être vraiment un enfoiré, un énorme escroc, mais pouvait quand même être super drôle et écrire vraiment extraordinairement bien. Alors après, c'est possible que Jordan Belfort ait embauché un nègre pour écrire son livre, mais bon, lui, il dit à l'avoir écrit lui-même, pourquoi pas, le livre est extrêmement bien écrit. Franchement, s'il racontait comme une histoire, moi, je l'ai dévoré du début à la fin. Et enfin, la dernière biographie que j'ai lue, c'est celle de Léonard de Vinci, de Walter Isaacson, donc le même qui a écrit la biographie d'Einstein et de Steve Jobs. Et encore une fois, c'est juste énorme, c'est un chef-d'œuvre encore extrêmement bien écrit. Alors, je l'ai juste terminé, je n'ai pas encore pris le temps de bien tout analyser, mais finalement, ce livre, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vraiment une excellente source d'inspiration et de motivation pour
ne pas procrastiner.
Parce que clairement, Léonard de Vinci, c'était le maître de la procrastination. Il a créé énormément d'œuvres
qu'il n'a jamais terminées.
Vous ne pouvez pas savoir le nombre de peintures, de sculptures et de recherches scientifiques qu'il a soit jamais terminé, soit jamais publié. Et en fait, dans certains domaines de la science, il aurait fait avancer la science de 2 siècles, voire plus, s'il avait publié ses travaux.
Mais non, ça n'intéressait pas de terminer. Ce qui l'intéressait, c'était d'explorer. Ça, c'était un génie un petit peu fou dans ce côté-là.
Ou alors, il y a aussi une autre manière de voir les choses, c'est que ce livre est aussi une excellente source d'inspiration pour faire des partenariats avec des gens qui compensent vos faiblesses.
Parce que clairement, si Léonard de Vinci s'était associé avec des gens un petit peu plus méthodiques que lui, eh bien, il aurait sans doute produit bien davantage. D'ailleurs, les seules publications qu'il a fait dans un livre scientifique à l'époque, c'est quand il s'est associé avec quelqu'un, qu'en fait, un auteur, un scientifique de l'époque, lui a demandé d'illustrer son livre. Donc, quand il y avait quelqu'un qui s'occupait finalement des détails du quotidien et de vraiment empaqueter le tout pour en faire un résultat final, ça fonctionnait bien, mais quand on le laissait à lui-même et qu'on lui demandait de terminer les choses, en gros, il terminait quasiment jamais.
Parce que voilà, Léonard, c'était un grand perfectionniste. Donc, ça lui a servi dans le sens où il a créé des chefs-d'œuvre absolument incroyables qui ont transcendé les siècles, mais il est tombé dans l'écueil classique des perfectionnistes, c'est-à-dire qu'en gros, bah, soit il avait l'impression que une œuvre n'était jamais terminée, il pouvait y passer des années, hein, la Joconde, il a peint sur une période de 20 ans et plus, en lui donnant des petites touches par-ci, par-là, soit en fait, à un moment de son travail, quand il est arrivé à une certaine étape, il était tellement impressionné finalement par la quantité de travail qui restait à faire qu'il laissait tomber et il passait à un autre résultat. Aussi, quelque chose que j'ai appris avec Léonard de Vinci, c'est que
essayez toujours, toujours de laisser un petit peu de mystère.
Il y a des tas de choses mystérieuses par rapport au travail et à la vie de Léonard, et il était quelqu'un voilà, qui aimait garder, entretenir un petit peu de mystère. Pas surtout, mais par petites touches, par-ci et par-là. Et ça a énormément aidé, non seulement de son vivant pour lui donner sa réputation et son autorité, mais aussi dans les siècles qui sont passés ensuite, parce qu'il y a des tas de gens qui ont essayé de percer un petit peu les mystères. Donc, la leçon à tirer de ça aussi, les rebelles intelligents, c'est on est dans une société où les choses sont de plus en plus transparentes. Voilà, on peut partager notre vie quotidienne aujourd'hui sur YouTube, sur Instagram, etc. Mais c'est important quand même de laisser une part de mystère, de ne pas tout dévoiler et de laisser un petit peu des choses à l'imagination de notre audience. Donc, voilà ce que j'ai appris en gros hein, des biographies que j'ai lues l'année dernière. Donc, j'ai deux questions à vous poser maintenant, les rebelles intelligents. D'abord, un, est-ce que vous avez lu une biographie ou des biographies qui vous ont inspiré? Si oui, eh bien, partagez-les dans les commentaires, ça sera intéressant de voir celles qui ont eu un impact sur vous. Et puis deux, parmi les quatre biographies dont je n'ai pas encore fait la chronique sur cette chaîne, d'après vous, laquelle je devrais faire en priorité? Donc répondez dans les commentaires maintenant, ça sera très intéressant de voir ce que vous en pensez.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur? Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.